Ah non, c'est bien, c'est reparti. Ah non, on va pas recommencer.
Pour qu'on repasse en boucle ou alors. Une belle soirée.
Mais on n'a pas moyen de faire quelque chose. Ah non.
C'est une deuxième chance.
Ah voilà, parfait. Merci. Si on était condamné à rester là.
Même la technique s'y met maintenant. Bien, alors beaucoup de choses, donc j'imagine beaucoup de questions. Une première très basique, Daniel, tu as parlé tout à l'heure de 6 000, combien d'abonnés?
7 000, on est là.
7 000 abonnés, il en faut beaucoup plus d'ici le mois de janvier.
Il faut trois fois ça.
Oui, c'est combien le coût de l'abonnement?
C'est 60 euros, c'est rien. Hein.
Ouais.
Ça vous permet de... 60 euros, ça vous fait 10 paquets de cigarettes en moins, donc on améliore votre santé. Ça fait combien? Ça fait combien de bières en moins?
D'accord.
Donc, non mais là-bas, si j'y suis, pense à votre santé.
Daniel, t'es allé.
On améliore. Bon, alors oublions la bière.
J'ai failli tout à l'heure parler de challenge. Sur ce fantastique projet, Mordia va beaucoup plus loin, il parle de stratégie de guérilla. C'est quelque chose que tu partages.
C'est Mordia.
C'est Mordia, mais c'est aussi le projet.
Là-bas, si j'y suis, est un sport de combat. Non, mais tout, il faut faire attention à ces métaphores. Hein. Mais bon, c'est une façon de s'exprimer. Mais c'est vrai que, oui, je crois, moi, une scène intellectuelle, une scène médiatique, avec de l'opposition, avec du débat, avec, au lieu d'un espèce de truc tout, c'est pas que ce soit mou. Actuellement, c'est qu'il y a une idéologie dominante qui se présente, je le disais tout à l'heure, sous la forme d'un qui-va-de-soi, d'une évidence incontestable. On a vécu, pour les plus âgés, des moments quand même où on avait des débats, on s'agrippait. On est en train de préparer... Il y a le 7-9, mais il y a l'idée aussi que, après tout, le 7-9, on n'a jamais dit que c'était le matin, ça pourrait être le soir aussi, hein, c'est PM aussi, hein, ça peut être, voilà, ça peut être ça. Et on prépare un quelque chose qui ressemblerait peut-être à Droit de réponse, par exemple. Hein. Vous vous souvenez de ces émissions où on sautait on sautait dessus, je m'entends intellectuellement, mais... où on avait des débats, voilà, alors le mot est peut-être un peu excessif, mais enfin c'est à peu près ça quand même.
Ouais. Alors ça me montre quand même...
Ben, vous avez vu quand même, là, tout ce qu'on a fait là, ce que dit Mélenchon là, voilà, ça passe dans une conversation, mais ça fait tout un buzz, c'est en ce moment, la France Inter, machin, c'est toute une... Il a osé critiquer, etc. Alors que c'est tout à fait normal, mais c'est le seul invité du matin. Il y a Bérou qui avait eu ce courage-là, à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand même, c'est un peu beaucoup la façon dont... Ce qui se passe sur Radio France, sur France Inter, c'est que vous n'avez pas, je parlais tout à l'heure, ça va directement dans la moyenne épinière, il n'y a pas les appareils critiques que vous trouvez ailleurs. Il n'y a pas ça. Pourquoi? Parce que les autres médias sont bien contents d'avoir une citation dans la revue de presse. Donc les autres médias ne critiquent pas ce média-là. Déjà les médias entre eux ne se critiquent pas beaucoup, mais celui-là encore moins, parce que quand même, c'est très prescripteur, il y a une puissance prescriptrice. Radio France en général, et France Inter en particulier, tant mieux, mais ce qui fait que ça émousse les critiques des autres médias et de ceux qui en font profession, intellectuels, experts, etc., rebelles de tout poil, qui se gardent bien d'être critiques envers les contenus de France Inter en général, pas seulement le 7-9, parce que on a toujours un bouquin en préparation, une pièce en préparation, un film en préparation, et qu'on est bien content d'être présent sur, voilà, d'avoir une promotion, machin. Donc ça fait que vous avez quand même de 12 à 14 millions de Françaises et de Français qui chaque jour se portent à l'écoute d'une des radios de Radio France. C'est donc une formidable entreprise culturelle. Cavada prétendait même que c'était la première entreprise culturelle en Europe. C'est possible, en tous les cas, c'est une force considérable en matière de culture, d'information, etc. Et voilà, il y a pas d'appareil, il y a pas de critique, il y a pas un quelque voilà. Donc ce qui fait, ce qui explique peut-être cette arrogance, cette suffisance de ceux qui font cette radio, qui se demandent bien pourquoi on leur reproche quelque chose alors que ça devrait faire partie du débat public. Et là, ce que fait Mélenchon, ça a l'air d'être une audace absolument extraordinaire. Quand il dit qu'il ne reviendra plus, il reviendra dans 3 jours, mais ça, bon, ça c'est Mélenchon.
C'est quelque chose qui est quand même pas mal, parce que ce débat sur l'uniformisation, j'ai l'impression d'avoir tout le temps entendu.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, avant il y avait beaucoup de débats, tu viens de le rappeler, ça se fritait, moi je veux bien, mais on critiquait, en même temps on avait les mêmes critiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment toi as vu le déclic en 89 pour créer la base CGSUI? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Qu'est-ce qu'il y avait?
Il n'y a pas eu d'intention, la base CGSUI n'était pas partie pour devenir l'émission qu'il est ou qu'elle est devenue. Ça, on avait, au départ, c'était une émission de voyage. Je voulais absolument avoir ce créneau voyage. Il y avait toujours celui qui avait le créneau voyage, qui voyageait. J'avais envie de voyager. Et voilà. Donc, il y a eu une opportunité que je ne vais pas évoquer ici, qui a été qu'on a eu ce créneau-là. Voilà. Et on a dit, on va voyager. Alors, c'était un peu le style écrivain voyageur. C'est ces gens qui vont au bout du monde pour un bout de conversation. Et on a commencé comme ça, voilà, faire des reportages, machin, du voyage, un peu le guide du routard illustré. Et puis on est allé à Berlin, on dit tiens, on va aller à Berlin. Ah, puis c'était en novembre, ah, c'était en 89, ça me dit quelque chose. On s'est dit bon, ben ouais, le routard, non. On est arrivé, les gens étaient en train de cogner, c'est absolument prodigieux, on était pris par l'histoire, mais on n'était pas tellement à la hauteur pour faire ce genre de reportage, on n'était pas, ça nous faisait, on comprenait pas très bien ce qui se passait, on était capable de faire des sondes, de mettre ça en scène, de faire des jolies choses, comme ça, avec des machins, mais comprendre ce qui se passait profondément, la politique, la géopolitique, la sociologie, etc., l'histoire de tout ça, on s'y est mis à bosser comme des fous, et peu à peu, la ligne éditoriale, disons, cette émission s'est construite, on a eu la chance incroyable d'avoir le temps de construire cette ligne éditoriale, et il y a eu plusieurs périodes que je raconterai un jour prochain, de la base où j'y suis, qui a d'abord été plutôt compassionnelle, et puis après humanitaire, et puis altermondialiste, etc. Il y a eu toute une évolution de l'émission, et un engagement qui a été entièrement le résultat du travail journalistique. Je dis ça pour les jeunes journalistes qui sont ici. On n'a jamais été une émission militante. Il n'y a jamais eu. On est des militants, puis on va chercher dans la vie, dans l'actualité, dans les événements, quelque chose qui va nous donner raison. C'est exactement l'inverse. La ligne éditoriale de la base où j'y suis a été le résultat d'un boulot rigoureux, populaire, original et engagé, mais à la fin seulement. Je crois à l'engagement à la fin. C'est une possibilité. Mais ce n'est pas une obligation que de conclure par un engagement. Mais je dis bien de conclure, parce que « you can't be neutral in a moving train ». C'est la devise de Howard Zinn. Vous ne pouvez pas être neutre quand le train est en marche. Tu évoquais tout à l'heure Hans Münch, et décidément, ce n'est pas 5 minutes pour les Juifs et 5 minutes pour les nazis. Donc, dès lors qu'on est reporter, on se porte physiquement témoin de quelque chose, généralement d'événements difficile, de conflits, parfois de guerres, etc. Et dans ces conditions, on ne peut pas rester neutre. Mais c'est après que le boulot a été fait, le boulot rigoureux, recoupé, etc. a été fait. Et ce qui fait qu'à la fin, on ne peut pas dire qu'il y a un conflit israélo-palestinien. C'est pas deux forces égales. Il y a deux forces, bien sûr, mais d'inégale puissance. Et ça, il faut le dire. Et on peut prendre position là-dessus en disant non, c'est pas 50-50. Par exemple, je cite cette expression. Voilà. C'était ça la question ?
C'était la question. Alors,
je ne sais pas si la réponse correspond à la question, mais enfin, c'est ma réponse.
Parce qu'il y a plein de questions dans la salle, j'en ai
oui.
Peut-être une dernière, c'est pas la dernière pour ce qui me concerne, mais ça ne fait rien. Les experts qui ont été mis en cause tout à l'heure, je ne sais plus qui les aborde dans la vidéo que nous avons vue. On sait que c'est aussi le cheval de bataille de Gilles Balmas.
Ah bah oui.
Ah, ça, c'est peut-être ça, la nouveauté. Ces experts, on ne les connaissait pas. Ils n'avaient pas cette puissance à l'époque de droit de réponse Mais son nom, du coup, tu viens d'en parler.
Polak, Michel Polak.
Voilà. C'est peut-être ça. Alors, est-ce que justement, on ne leur donne pas trop la parole? Est-ce que ça n'est pas ça, la facilité
et
le non-journalisme?
Il y a une critique des médias qui s'est développée. Voilà, ça a toujours existé. La presse a toujours critiqué la presse. Ça, c'est une longue histoire que celle-là. Mais enfin, pour notre époque, effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé à partir du travail de Bourdieu sur la télévision, puis le travail ensuite de Serge Halimi avec ses nouveaux chiens de garde, qui reprenaient des papiers qu'il avait écrits pour le Diplo, et qui a eu 250 000 exemplaires, quand même, le petit bouquin de Serge. Et ça a donné naissance à une critique des médias. Qui a été reprise un peu partout maintenant. Beaucoup de médias font la critique des médias. Les médias font la critique des médias. Bon, à quoi ça aboutit? On voit le résultat, c'est plus possible. Ce serait le temps de faire un bilan qui ne serait pas forcément très, très joyeux. Oui, il y a du tout ce pourri. Voilà, il y a du tout ce pourri. Ça aboutit un peu à ça. Si vous faites attention aux enquêtes d'opinion qui sont publiées chaque année en début d'année dans La Croix, qui donnent une idée de l'estime des journalistes dans le cœur des Français, c'est pas brillant du tout. Hein. On est soupçonné de corruption, corruption morale, corruption financière, etc. C'est quand même un métier qui est assez mal vu. Alors, il y a un côté un peu tout pourri, enfin, c'est un peu comme la classe politique. On aurait peut-être souhaité qu'il y ait un peu de différence entre les bons et les mauvais journalistes. Moi, ça, c'était raté, et c'est une des intentions que nous avons avec ce nouveau là-bas, c'est d'encourager un autre journalisme. Un autre journalisme, pas seulement un journalisme, disons, voilà, un journalisme de la gauche critique, mais c'est d'être capable de montrer que parfois dans des médias conservateurs ou dans des médias qui ne sont pas de gauche, on peut trouver d'excellents papiers, d'excellents boulots faits par les uns et par les autres, y compris dans des petits médias qui ne sont pas toujours mis en avant, et pas seulement dans la presse alternative, marginale, etc. On va essayer de faire casser ce métier en deux parties et d'encourager les résistances et l'honnêteté parfois modeste de beaucoup de gens dans ce métier, parmi ceux qui y croient encore et qui y croient à nouveau.
Des questions à la salle, je ne voudrais pas vous frustrer. Oui, alors est-ce qu'il y a un micro qui circule? Non. Est-ce qu'on peut arranger ça pendant que moi je fais la transition? Je viens vers vous.
Il y en a un micro là, ça marche pas.
Oui, je sais pas si.
Il y en a un autre là.
Merci. Bonsoir, je fais partie de la coordination des intermittents 5962. Et on parlait de la différence entre l'information qu'on a. Et l'information qui passe directement par moi et la réalité, nous on est confrontés à ça quotidiennement depuis le mois de février, et même depuis avant, pour ceux qui étaient invités avant. C'est-à-dire que il n'y a absolument aucune information qui passe sur le contenu de la lutte de la pension sur le chômage.
Attends, je ne comprends pas. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi?
Oui, alors je parle du problème de l'information.
Mais sur quoi?
Sur des questions sociales majeures.
Lesquelles?
On parlait tout à l'heure, il a été évoqué le virage social libéral. Le problème, c'est qu'on ne dit pas que derrière ce virage, il y a un immense fossé. Et le fossé est suffisamment profond pour que ceux qui tombent ne n'apparaissent plus. Et pour éviter que ça pose problème, on enlève le panneau danger vert. C'est un peu la situation qu'on vit. C'est-à-dire que la question que je pose, c'est...
Mais on vit, attends, en tant que tu étais syndicaliste...
Alors, les intermittents...
Présente-toi, dis-nous.
Oui, alors, qui parle?
Intermittent, pardon.
Je suis parti tout de suite sur mon idée. Donc, je fais partie d'un mouvement qui est une coordination, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont syndiqués, des gens qui sont pas syndiqués, qui est en train de se battre depuis des mois et des mois contre, entre autres, la réforme de l'assurance chômage. Okay. Derrière, alors, c'est une illustration de nombreux problèmes dans notre société. Je veux dire, c'est pas notre but que je mettre en avant, ici, on est en train de parler du problème des médias, c'est la manière dont cette lutte est effacée complètement par les médias.
Oui.
Voilà.
Oui.
Donc, voilà, moi, la question que je voulais poser par rapport à ça, c'est comment on peut faire pour être autre chose qu'une anecdote, parce qu'on mène des actions quand elles sont pas trop bien, ça fait un petit temps profilé dans la vraie mineure qui profite pour se foutre un peu de nous. Et à côté de ça, la question du chômage n'apparaît absolument pas. Mmh. Et la question du chômage, la réforme qui a été faite, elle concerne 25 millions de personnes, sont 25 millions de salariés qui sont directement menacés. Mmh. Et je vais en profiter. Alors, la question que je pose, c'est comment on peut aller au-delà de ça et comment, quand on est dans une lutte, quelle que soit la lutte, hein, je veux dire, encore une fois, c'est pas l'idée de prendre notre cas en particulier, je suis juste un exemple.
Enfin, tu prendrais ton cas particulier, ce serait pas une honte. Hein,
ouais. Non, mais tu peux. Comment, dans cette société, qui est, comme ça a été bien expliqué, qui est complètement verrouillée médiatiquement, on peut amener des véritables questions qui sont des questions de fond, qui sont des questions de transformation de la société, parce que la société est en train de se changer complètement sur un programme que personne n'a appris. Et pour finir cette question, il y a beaucoup de journalistes. Ce matin, j'ai entendu sur France Inter, on reste fidèle à tout, j'ai entendu Christophe Barbier qui est interviewé à 9h45 et qui était très serein en train d'expliquer l'effondrement de la presse magazine d'actualité. Et ça ne veut pas l'air de trop gêner, parce que bon, l'Express fait partie des journaux qui sont bien subventionnés, qui viennent de la pub. Donc son journal se casse la gueule. Il est serein.
Okay.
Et il explique ça très sereinement. C'est pour ça que je m'adresse aussi aux élèves journalistes. Il explique ça très sereinement en disant, mais de toute façon, c'est inévitable. Les Français ne s'intéressent plus à la politique. La preuve, le seul journal quotidien qui progresse, c'est le Parisien.
Oui.
Voilà, c'est ce qui a expliqué par vous. Je finis en une phrase. Donc je vais faire le lien entre notre but et cette remarque de Barbier. Ici, il y a des aides journalistes. Si vous voulez avoir, si vous voulez conserver le job, je peux vous dire qu'on sait par la réforme sur le chômage ce qui va vous arriver si vous ne conservez pas ce job. Il n'y a qu'une seule manière de le faire, c'est de réussir à réintéresser les Français à la politique.
Merci. On peut tout à fait intéresser les Français à la politique. Hein. C'est une façon de raconter et c'est des façons de mettre les choses en forme, on l'a montré assez souvent dans nos reportages, mais on n'en a pas le monopole. On peut tout à fait rendre intéressant, ce qui n'est pas toujours le cas des syndicats, une lutte. Il faut savoir la rendre intéressante, il faut savoir la mettre parfois en forme. Hein, je pense que Balbastre n'est pas là, mais enfin, il y a quand même des gens, Tria, Balbastre et d'autres, ont mis des luttes, comme ça, des luttes sociales, en forme de manière tout à fait captivante. Est tout à fait passionnante. Il y a donc une volonté de ne pas raconter certaines choses pour en raconter d'autres. Mais si tu viens dans une rédaction, tu dis « je vais faire un truc sur le chômage », on dit « quand tu vas plomber tout le monde, tu vas nous emmerder longtemps avec ton truc ». Alors qu'il y a un très joli sujet à faire sur les maillots de bain. T'as vu le sujet sur les maillots de bain? T'emmerdes pas avec ça. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder? Tu vas plomber? Tu veux vraiment nous foutre le moral par terre? Voilà. Et on va dire que ça se vend pas, etc. Il y a une règle absolue, c'est que Si tu essayes de t'adresser à ce que les gens ont de moins con, ça fait le même résultat que si tu t'adresses à ce qu'ils ont de plus con. Tu vois, voilà, ça donne les mêmes sondages. Ça fait la même. Il y a un choix, tu choisis. Là, tu peux bifurquer sur l'un ou sur l'autre. Mais d'écrire, raconter des luttes sociales, ça peut tout à fait être passionnant. Enfin, prenez seulement l'exemple de Ken Loach, par exemple, vous connaissez au moins Ken Loach. Il a pu montrer des choses passionnantes qu'on peut voir comme des feuilletons. Et je viens de dire feuilleton, on va commencer un feuilleton sur des luttes dans la base où j'y suis. On va montrer, mais comme des sitcoms, comme des feuilletons, comme les novellas américains, brésiliens, on va, par exemple, autant de la lutte des Contis, On se dit, on aurait dû le raconter comme ça. Arriveront-ils, Xavier Mathieu arrivera-t-il à faire ci, à faire ça, machin, avant demain matin, vous le saurez dans le prochain épisode. Tu vois, mais pourquoi pas? Pourquoi pas rendre les... Mais c'est aussi captivant que ça. Et puis, est-ce que... que fait la femme de Xavier Mathieu pendant ce temps-là? Un peu tout à fait, pourquoi pas? Mais pourquoi pas se marrer, tu vois? Nous, on est allé assez souvent sur des occupations où c'est vachement gay, où on se bidonne d'un bout à l'autre, où il y a des love stories qui s'installent, des danses, des machins. La lutte, c'est gay, la lutte, c'est la vie. On va essayer de raconter ça. Et c'est pas si difficile. C'est pas si difficile. Il y a une grande radio... à Milan, qui s'appelle Radio Popolare, et qui est une vieille, enfin, qui date des années 70, et qui est une radio qui marche bien, et qui s'attache complètement à ça, à montrer, à suivre toutes ces luttes, qui réussit tout à fait à les rendre intéressantes, captivantes, pas seulement pour les protagonistes de telle ou telle lutte, mais pour tout le monde, et qui marche très bien. Il y a une trentaine de journalistes qui travaillent dans cette radio, qui pèse politiquement dans la région de Milan. Donc on peut, tout ça, c'est possible. Donc on comprend tous que c'est possible, ok? Donc si ça se fait pas, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, elle est idéologique. Et on dit qu'elle n'est pas idéologique, que c'est comme ça que ça marche, et qu'il y a des histoires d'audience, etc. Là-bas, si j'y suis à montrer qu'avec des sujets parfois très rébarbatifs, tu vois, un jour, t'as Lordon qui parle pendant une heure. C'est long, une heure avec Lordon. Et le lendemain, t'as un truc sur l'euthanasie. Et un lendemain, t'as un truc... Attends, ils vont plomber la terre entière. Eh ben, l'audience est toujours là. Tu vois, on peut avoir des choses très compliquées, très difficiles, auxquelles on ne comprend pas tout. Et puis le lendemain, t'as un truc rigolo, qui est accessible à tous. C'est ce basculement entre... des choses parfois très compliquées, des choses plus qui sont plus où on titube comme ça entre voilà, le savant et le populaire à la fois. Savant et populaire, c'était notre principe, c'était notre devise, et ça le reste comme ça. Donc on peut tout à fait montrer ces luttes sociales de façon captivante. Si on ne le fait pas, c'est qu'il y a une raison et on la connaît.
En même temps, en attendant la question, peut-être que oui. Peut-être avant la lutte sociale, on peut aussi s'intéresser à ce qui se passe dans l'entreprise avant qu'il y ait des luttes sociales. Savoir comment vivent les gens, c'est peut-être ça aussi l'autre journalisme que l'on peut préconiser.
Félicitations.
Je représente une association dont les statuts sont assez larges au plan sociétal et j'ai un peu l'impression que les médias ont depuis longtemps oublié de donner la parole dans le cadre d'un droit de réponse à ceux qui souffrent et qui sont spoliés, ceux qui sont expropriés, ceux dont on a abusé la bonne foi. Et comme tout à l'heure vous parliez d'un autre journalisme, je vais poser la question, un journalisme d'investigation, c'est-à-dire lorsque l'on a affaire à une affaire d'une malhonnêteté phénoménale montée de toutes pièces entre des élus, entre des investisseurs, des promoteurs ou autres personnes qui, dès le départ, sont dans une situation de faux semblant, de non-transparence avec des filiales, etc., et qu'au final, 5, 6, 7 ans plus tard, alors que la totalité de l'investissement a déjà été versé aux promoteurs véreux avec peut-être les petites valises qui ont circulé entre les amis élus qui ont engendré toute cette manigance et toute cette usurpation, eh bien personne se trouve dépossédé de son bien puisque il y a eu toutes sortes de malversations avec, je cite dans l'ordre, peut-être dans les ans, la création fictive d'un siège social dans un secteur...
D'accord, mais rentrons pas trop dans les détails.
Oui, vous voulez... oui. Ça va, merci, mais d'accord. Je voulais savoir si on allait pouvoir donc prendre en compte cela, à savoir que maintenant, pour faire sortir la vérité, il faut dénoncer ces faits. Alors que le dossier existe et que, au final, un notaire a vraisemblablement usurpé la signature du propriétaire, par exemple.
Oui, oui, oui.
C'est une des multiples affaires pour lesquelles on peut constater cette collusion, cette corruption, cette concussion que beaucoup de gens connaissent et qui ne sont pas faciles à dénoncer.
Oui, oui.
J'en connais
Oui, bien sûr. Alors ça, bien sûr, après, ça regarde. Et vous savez, il y a une chose dont on parlait avec mon camarade, là, dont je connais pas le prénom, mais Philippe disait, ouais, il faut parler de la précarité croissante dans la presse. Ce que vous dites là, une affaire comme ça, il y a quelque chose, on voit, bon, les journalistes qui sont là se disent, oui, d'accord, oulala, ça c'est du boulot. Votre truc, c'est du boulot. Non, c'est du boulot. C'est-à-dire que si je suis rédacteur en chef, il y a peut-être un truc intéressant, il faudrait qu'on en reparle, etc. Et ok, bon, ça c'est une enquête longue. C'est une enquête longue, à tous les coups c'est une enquête longue. Donc il faut, voilà, on va mettre un journaliste dessus ou deux, et ça va durer un mois, ça va durer deux mois. Et comment on paye le journaliste, ça aboutit à quoi? Le succès de Mediapart actuellement, hein, que vous connaissez, c'est des journalistes qui ont le temps de bosser. Voilà, il y a une direction sur ce média qui est que les journalistes travaillent dans des conditions normales. Normales, ce n'est pas des salaires éblouissants, mais enfin corrects, et ils ont du temps pour travailler. Ils peuvent enquêter pendant plusieurs semaines, même mois, et ils n'ont pas d'obligation de résultat. Ils peuvent très bien se planter, ben voilà, ça fait trois mois qu'on est là-dessus, ça n'aboutit pas. C'est des conditions très rares aujourd'hui. C'est des conditions très rares. Il faut aller très vite, il faut aller tout de suite, il faut, voilà, il y a l'AFP, on tape tout de suite le truc, on ne sait même pas. Pour la radio, il y a des phonétiques. Le truc le plus important, c'est phonétique pour bien prononcer les noms des... Voilà. Alors, la phonétique, oui, ça va, mais on ne sait pas où est la Géorgie, où est l'Ukraine, on ne sait pas du tout. Voilà. Donc, ça, il faut aller très vite, il faut nourrir cette bête monstrueuse quotidiennement. Et là, ce que vous évoquez, le cas que vous évoquez, suscite, exige des enquêtes en longueur. S'informer à un coût. S'informer à un coût. Or, là, pour le coup, c'est le cas de le dire, Internet va à l'encontre de ça. Hein. Quand on dit qu'il faut 60 euros par an pour que les journalistes fassent leur travail, c'est pas du tout pour... voilà. Ah oui, mais dis donc, c'est cher par rapport à quoi? Il faut que, voilà. Et donc, là, on est en train de glisser, vous voyez, sur un journalisme pauvre, précaire. L'augmentation, la commission de la carte de presse vous dira, si quelqu'un connaît cette question-là, on a de plus en plus de pigistes mal payés. Alors, ça entraîne, la précarité mène à la docilité, hein, et à la perte de qualité d'un travail. On le voit encore une fois avec Mediapart, on sort des affaires, on a le temps de sortir des affaires, ça fait le succès de ce site, hein, et puis ça intéresse parce que ça révèle quelque chose. Qu'est-ce que c'est que le journalisme? C'est très simple, le journalisme, hein, c'est un contre-pouvoir. C'est simplement un contre-pouvoir. On a beaucoup répété cette formule, ce mot, au point de le vider de tout son sens, mais on doit reprendre ce mot-là et lui redonner tout son sens. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont pour fonction d'interroger le pouvoir, les pouvoirs, sur leur légitimité. Le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir médiatique. Hein, et de voir, mais pourquoi tu es au pouvoir, toi? Qu'est-ce qui t'a fait roi? Qu'est-ce qui fait que t'es... Quelle est ta légitimité pour prendre ces décisions, pour commander et avoir toutes ces... Et le boulot des journalistes, c'est d'aller du côté du pouvoir, de ces pouvoirs qui ne font jamais ce qu'ils disent et ne disent jamais ce qu'ils font, et d'essayer d'arracher, de rapporter quelques éléments pour les autres, qui n'ont pas le temps de le faire, tout simplement. Hein, rapporter des éléments contradictoires d'appréciation afin que vous puissiez, que nous puissions exercer nos droits démocratiques. C'est tout, le truc. Comme là, il y a un boucher, il y a un dentiste, il y a une infirmière, il y a un professeur, etc. Je ne suis rien de tout ça, j'ai besoin d'eux. Il faut que le journaliste n'ait pas une fonction différente de celle-là. C'est celui qui va, qui rapporte des informations qu'il est allé chercher par des moyens qui peuvent être parfois transgressifs, Du côté des pouvoirs, et c'est ce que font certains journaux, c'est ce que font une certaine presse, qu'a fait une certaine presse, que continue de faire une certaine presse. Vous avez, le Canard Enchaîné, par exemple, peut parfois donner des indications de ce genre, des informations de ce genre. Il y a d'autres médias quand même qui le font, j'ai cité Mediapart, on peut en citer d'autres, Le Monde Diplomatique, etc. C'est ça simplement ce boulot, c'est pas plus ni moins que ça.
Oui, mais... Si une bonne partie du travail déjà est fait en amont par le citoyen, pourquoi ce type de journalisme ne pourrait-il pas relayer, puisque par définition, les grands médias sont aux ordres des puissants, aux ordres des citoyens.
Pas tous, pas tous. On ne peut pas amalgamer tous, c'est pas tous.
Mais il n'empêche qu'il y a une forme d'ouverture sur l'état de sujet, et le fait de vouloir aller vite, c'est aussi ce type de sujet n'est pas repris, il n'est pas suivi.
Je vais vous étonner, moi je suis pour des journalistes professionnels. Je pense que on a besoin de journalistes professionnels, c'est-à-dire des gens qui sont capables, on disait, qui sont capables de décrypter, qui sont capables de faire un boulot rigoureux, de recouper des sources. Ce que le citoyen pris dans les émotions de s'il est victime ou s'il est accusé injustement ou à travers ses émotions, ne peut pas toujours voir. Et il est nécessaire, on a beaucoup cru ces dernières années à tout le monde est journaliste, je ne crois pas vraiment ça. Je pense que, et on le voit sur Internet, qui est devenu une véritable fosse à purin à bien des égards, où il faut revenir à un journalisme qui décrypte et qui construit aussi un regard tout à fait assumé dans sa subjectivité sur des faits et sur l'histoire immédiate. Hein. Mais je crois quand même à ce... et on le voit bien, on a cru à ça, ce miracle Internet il y a quelques années, et aujourd'hui les gens sont complètement paumés là-dedans, perdus là-dedans, on passe de liane en liane comme ça sans plus rien comprendre. Je crois qu'on a besoin, de gens professionnels honnêtes. Je crois pas du tout à l'objectivité, mais d'une honnêteté, d'une humilité des journalistes à faire le boulot tout simplement, de façon à ce qu'on puisse, avec le temps que nous avons dans une journée, je parle pas de nous les professionnels, mais que les gens peuvent avoir, on a calculé qu'on a peu de temps dans une journée pour s'informer, hein. C'est 20-25 minutes. Quand on a vraiment des enfants, du boulot, une maison et toute une vie, on a peu de temps pour s'informer. Donc il doit y avoir un lien de confiance qui doit se rétablir entre les citoyens et les médias. Et ça, c'est un boulot. Si vous regardez la page, je pense au Canard Enchaîné, si vous regardez la deuxième page, Claude Angéli signe toutes les semaines un truc sur la défense. Jamais il cite ses sources. Claude Angéli, et on sait que c'est vrai, hein, tout le monde saute là-dessus, on sait très bien qu'il a 80 balais maintenant, Claude Angéli. Hein. Pourquoi ? C'est la confiance. Comment il a trouvé ces informations-là ? Qui fréquente, avec qui ? Des jeunes qui lui envoient ces trucs. Pop, pop, pop. La confiance. Et la confiance, elle est venue parce que pendant des années et des années, on a pu voir contre ce qu'il écrivait de façon très concise, hein. Je ne suis pas très concis là, mais je vais essayer, je vais faire des efforts. Et il y a une confiance qui s'est installée. Je crois à la confiance, mais qui est le produit d'un travail modeste et exigeant de la part des journalistes.
Oui, ça va être compliqué pour le micro, je reviens.
On vous entend là, non ?
On vous entend bien, essayez, mais j'en ai pas besoin.
Voilà, oui. Oui.
Le taffetas, on en parle quand même, mais peut-être pas comme il le faut. Alors, Daniel.
Non, nous, enfin, pour ce qui nous concerne, on en a longuement parlé à plusieurs reprises. Ah, pardon, oui, allez-y.
Alors, elle est la bienvenue.
Oui, oui. Moi, je ne sais pas, je vois par exemple un
truc comme le super citoyen contre les multinationales. Vous voyez, il y a bien eu Captain America dans les années 40, un truc comme ça, quoi. Mmh. Un truc marrant, un comique, un truc comme ça, vous pouvez peut-être le faire. Voilà, et ensuite, le dernier point que je voulais soulever, c'est pas sûr que vous puissiez le faire, c'est fédérer, créer du lien entre tous ces gens qui finalement pensent la même chose que mon voisin derrière, et puis qui sont comme ça disséminés. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire une masse, de grossir et d'être plus médiatisé, puisqu'on pense tous la même chose. Mais ça, je ne sais pas si...
Oui, oui. De... On ne peut pas tout faire quand même, on ne peut pas...
Voilà.
Oui, oui. C'est ce qu'on a fait. Je ne sors pas d'un œuf, là, vous voyez. Il y a 25 ans de la base, j'y suis. Donc, et on a essayé. Il y a quand même une réalisation, là, vous dites, se réunir. On a lancé l'idée des cafés repères de la base, des repères de la base, j'y suis. Il y en a 150 en France. Et ça marche, vous voyez que ça marche. Et nous, on n'a rien fait. Alors là, s'il y a une chose, on n'a rien fait, c'est simplement dire, vous avez des voisins. Vous avez dans votre village ou dans votre quartier des gens qui peut-être écoutent France Inter et là-bas, si j'y suis, mais peut-être que vous pouvez vous retrouver dans un bistrot, trouver un bistrot, envoyez-nous votre... Vous devenez le correspondant de là-bas, si j'y suis, puis vous annoncerez vos cafés repères. Voilà, c'est tout. On a dit aux gens, retrouvez-vous. On a inventé notre titre de gloire, c'est d'avoir inventé le réseau social où on se voit en vrai. Voilà. Et le truc où on se voit en vrai, on peut se sentir, on peut boire des coups, ça c'est un progrès incroyable. On a peut-être un siècle d'avance avec nos cafés repères. C'est pas encore, pour l'instant, Internet, c'est simplement, il n'y a que l'œil et l'oreille qui marchent. Hein. Dans nos cafés repères, on peut se sentir, on peut se voir, on peut se draguer, etc. C'est possible. Et voilà, et boire des coups. On a inventé ça, et ça marche.
S'engueuler, des fois.
S'engueuler, bien sûr, bah oui. Ah, non, mais voilà, c'était... Mais on ne peut pas non plus vous dire qu'on va installer des réseaux et des tas de choses, mais on voit qu'il y a des choses sont possibles. Mais, enfin, TAFTA, évidemment, c'est une grande affaire. Vous avez raison de vous battre pour ça. Il ne faut peut-être pas trop tout attendre toujours des médias. Hein. Voilà, il y a des moyens aussi de faire connaître des choses, de lutter, de faire avancer, de... Voilà, on en est là, hein.
Parfois, on fait le grand écart, on attend tout des médias et on veut être journaliste et citoyen, on en est revenu d'ailleurs. C'est vrai que.
Alors,
oui, votre voix porte-t-elle ? J'arrive. Ouais. Il y a la caméra, je ne peux pas me haïr, vous savez. Où est-ce que vous êtes ?
Oui, je
suis gentil comme tu
veux. Bien écrit.
Moi, je voudrais juste de savoir comment vous allez faire concrètement pour choisir vos sujets. Et j'ai ajouté des remarques. Par exemple, ce que vous avez dit tout à l'heure, moi, une heure de Lordon, c'est pas long du tout. Et pour répondre aussi à un monsieur là-bas, je pense pas du tout que les gens ne s'intéressent plus du tout à la politique. Et comme vous aviez dit, comme vous avez conclu tout à l'heure en disant qu'on pouvait finir par être engagé, hein, avec les trois démarches du journaliste que vous décriviez, 34 étapes, et donc, donc la dernière étape étant l'engagement, donc je voulais vous demander aussi la deuxième question, jusqu'où vous étiez prêt à aller dans l'engagement. Comment choisir
le
sujet et jusqu'où vous êtes
prêt
à aller dans
la question du choix du sujet, c'est la question la plus difficile. Pourquoi est-ce qu'on va choisir ce sujet-là plus qu'un autre ? Eh bien, c'est tout est là. Pourquoi est-ce qu'on va parler de ça plutôt que de ça ? Alors, souvent, bêtement, il y a des questions matérielles. Jérusalem, c'est pas très loin.